On est actuellement dans le chapitre 31. C'est notre deuxième cours, Bezrat Hashem, sur le chapitre 31. Et dans ce Perek Lamed Aleph, on explique comment, bien qu'on n'arrête pas d'insister sur l'importance de la Simra, sur l'importance... Bien qu'on n'arrête pas d'insister sur l'importance de la Simra, l'importance de la joie, néanmoins, parfois, quand on sent qu'on devient bouché, quand on sent que rien ne passe, dans ce cas-là, la seule façon de réveiller la personne, c'est de le bousculer. Tout en prenant le risque, cette personne, quand on va le bousculer, il risque de devenir un peu triste. Mais on a expliqué, au dernier cours qu'on a fait, donc ça fait deux semaines, on a expliqué, attendez, je vais faire un résumé, d'accord ? On a expliqué que même si une personne risque d'être triste, il faut faire la différence entre Merirut et Atzvut. Alors si on traduirait en français, ça donnerait entre la tristesse et la déprime. C'est pas une traduction exacte, mais c'est une traduction que je donne pour illustrer l'idée que je veux dire. Que il y a une tristesse positive, il y a une tristesse négative. La tristesse positive, c'est quand je réalise la gravité de ce que j'ai fait et j'ai envie de me reprendre. Ça veut dire que c'est vrai que je suis triste, mais j'ai envie de me reprendre. Donc c'est une tristesse positive. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on appelle une déprime ? C'est quand tellement je suis pas bien que j'ai plus envie de rien faire du tout.
Ça c'est la dépression.
Ça c'est la dépression.
Dépression
ou déprime, hein. Bon, c'est deux variantes. Ouais. Donc ça veut dire, je pense que chacun de nous a dû passer dans sa vie par ces deux phases. Il y a des fois où tu apprends une sale nouvelle ou d'un truc qui te casse les pieds. Mais tu tombes pas. Au contraire. Tu dis, bon, je vais me relever. Tu as envie de te relever. Mais il y a d'autres cas où tu es par terre et tu as envie de rester par terre et si tu voulais t'enfoncer encore plus, tu vas le faire. C'est la différence entre Atzvut et Merirut. D'accord ? Entre la tristesse et la déprime. Cependant, l'Azbour Azaké nous dit, pourquoi il explique ça ? Il explique ça pour dire, n'aie pas peur. Si tu sens à un moment que tu captes pas, tu sens que ça ne te parle pas, et que tu vas étudier des textes qui vont un petit peu te bousculer, c'est pas si mal que ça d'être bousculé. C'est pas grave. Être bousculé pour vouloir redémarrer, c'est bien. Regardez. On va prendre l'exemple de ce qu'on fait pendant le mois d'Eloul. Je prends l'exemple que le mois d'Eloul, mais en vérité, on peut faire chaque jour ça. Le mois d'Eloul. Qu'est-ce qui se passe le mois d'Eloul ? On fait un bilan. Évidemment, quand on fait un bilan de nos avérotes, qui n'est pas triste ? Bien sûr qu'on est triste. Est-ce que pour autant, vous avez déjà vu un juif qui arrive le mois d'Eloul qui dit bon, dans ce cas-là, on arrête tout ?
Non.
Comment on réagit en général ? On se dit bon, cette année j'ai fauté, d'accord ? Maintenant, nouvelle année, je vais redémarrer.
Vous
voyez ? Ça veut dire que la tristesse n'est pas forcément un élément négatif. Ça peut être un élément positif qui permet à la personne de redémarrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Pas avoir peur de se remettre en question, quitte même à passer par des moments tristes. La tristesse n'est pas forcément négative. C'est ce qu'elle explique ici. Cependant, comme c'est très dangereux, parce que la limite entre la tristesse et la déprime est très fine. On est d'accord ? Ça veut dire, la limite entre je suis triste, je redémarre, et je déprime, je suis en dépression, et je fais rien, c'est très très fine. La limite est très très fine. C'est un petit peu comme on l'a expliqué récemment, la limite qu'il y a entre la joie et la frivolité. On a parlé de ça, Shabbat d'après-midi. La joie et la frivolité. La joie, c'est j'ai envie d'exprimer à Dieu que je suis joyeux d'être son soldat, entre guillemets. La frivolité, j'ai envie de me lâcher. Quelle différence vous pouvez faire entre une personne qui est en train de danser avec un Sefer Torah, Simchat Torah, et un autre qui est en train de danser en boîte de nuit avec une femme, qui n'est pas la sienne?
C'est le nombre de bouteilles d'alcool qui
la musique. Bien vu.
Non mais sérieusement. Les deux, ils sont un peu éméchés. Quelle est la différence? Mis à part l'objet, quand il danse avec une Torah, le tu danses avec une bêtise.
C'est agréable.
D'accord? Écoutez ma question. Réfléchissez à ma question, monsieur Benita. Quelle est la différence dans le fond entre les deux? Pas dans la forme. Dans la forme. Bon, un il danse avec la Torah, l'autre il danse avec une femme. D'accord. Ça c'est une différence dans la forme. Dans le fond, quelle est la différence? La différence c'est que un est joyeux, l'autre est dans la frivolité. Un exprime sa soumission envers Dieu au travers de la joie. L'autre exprime son envie de se lâcher. Il va exprimer ça autour d'une femme. Pourtant, sur le terrain, c'est très difficile d'avoir la différence. La limite entre la joie et la frivolité est très fine. De la même façon, la limite entre la tristesse et la dépression, ou la tristesse et la déprime, c'est une limite qui est très très fine. Et qu'on peut très rapidement basculer de l'un à l'autre. Ça veut dire au début, il est triste, il dit, ouais, je vais me reprendre. Il voit qu'il n'arrive pas, pas qu'il déprime.
Mais une déprime, ça peut durer 20 ans.
Hein. Et ça peut durer des années. Ça peut durer très longtemps. Ouais. C'est pour ça que la Gemara Zaken dit, comme c'est dangereux, la tristesse, c'est un outil dangereux, c'est-à-dire c'est un médicament qui est très important. Lorsqu'une personne, il n'y a plus rien qui lui parle, des fois, il faut le bousculer. Et quand on le bouscule et qu'il réalise qu'il n'est pas bien et qu'il doit faire teshuva, cette tristesse peut être un médicament extraordinaire. Mais d'un autre côté, un médicament, c'est dangereux. Ce médicament, d'un autre côté, il peut aliter la personne, il peut le laisser comme ça, en déprime, pendant longtemps. Alors, comme c'est un médicament qui est dangereux, c'est la raison pour laquelle, on va reprendre dans les mots maintenant. Ah, cependant, Shiat HaKosher, le moment opportun, bonsoir, le moment opportun. Le moment opportun pour réfléchir à ces avérot,
page 71,
ce qui risque de m'amener à la tristesse et peut-être également à la déprime. Or, on n'aimerait pas qu'on arrive à ça. Vous savez, c'est quoi la technique? La technique est très simple. Bon, ça, c'est une grande technique blanchie. C'est quoi la technique? Pense à tes avérot. Quand de toutes les façons, tu es déjà triste des choses de ce monde-ci. Exemple. Exemple. Je vous donne un exemple tout de suite. Imaginez une personne, il a eu une mauvaise journée dans la parnassa. Alors, il attendait des affaires, pac. Il rentre à la maison, il n'est pas bien. Alors, pas bien pour pas bien. Il va se dire, tant qu'à faire, si je suis dans ce qui n'est pas bien, je vais commencer à ouvrir les dossiers pour voir qu'est-ce qui va bien dans ma vodata, dans mon service de Dieu. Ça veut dire que comme de toutes les façons, il est déjà dans un état où il est pas bien. Tu as raison. Mais comme il est déjà dans cet état d'esprit, donc c'est moins dangereux. Parce qu'il est déjà dans cet état d'esprit. Donc tant qu'à faire, quand on ouvre le capot, alors on va regarder ce qu'il y a dans le capot. Alors bon, si on a déjà ouvert, on va regarder maintenant, on va toucher à cette pièce, parce qu'on a déjà ouvert. Ça veut dire, théoriquement, on aurait pu le faire n'importe quand, cette remise en question. Mais comme c'est dangereux, c'est pour ça que la remise en question, on va la laisser un moment dans lequel, un moment qui est opportun, un moment qui est prévu pour ça, un moment, soit un moment dans lequel déjà je suis pas bien, ou bien un moment qui était prévu pour ça, comme on l'a expliqué précédemment. Alors, vous savez que, il y a des moments, en fait, c'est intéressant ce qu'il explique dans le commentaire, il dit comme ça. Il dit que, quand on réfléchit dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a prévu un moment pour tout. Si je vous pose une question, imaginez la question suivante. Imaginez une personne, en plein Shabbat, il a envie de penser au Averot qu'il a fait. Est-ce que c'est le moment opportun?
Non.
Pourquoi?
Parce que c'est pas le moment.
Parce que le Shabbat, il faut être joyeux. Donc vous voyez que Kadosh Baruch, il a créé des moments. Il y a des périodes. Le Shabbat, c'est une zone joyeuse. Donc quand j'ai un truc qui peut m'angoisser, les affaires, la parnassa, ce que tu veux, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, dès que le Shabbat y rentre, tu fais comme si que t'es millionnaire. Comme si que tout le travail est terminé. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'il y a des moments, il y a des moments dans la vie qui sont prévus pour être des moments joyeux. Et il faut tout faire pour préserver cette joie. D'un autre côté, il y a des moments dans la vie qui sont imaginés comme des moments de tristesse, des moments de bilan. Comme par exemple, les périodes de transition. Période de transition, c'est quoi? Par exemple, une personne, d'accord, qui était jeune homme, il va se marier. Donc il passe par une phase de transition. Il était à la maternelle, il va passer au primaire. Il était au primaire, il va passer au collège, etc. Toute période de transition est une période de remise en question. Toute. D'accord? Moi, je suis en déménagement, par exemple, là, maintenant. Transition. Toute période de transition est une période de remise en question. C'est-à-dire, on remet en question des choses qu'on fait, qu'on fait pas, etc. On remet en question. Pareil, on déménage, on fait l'alia, on va ici, on fait ça. Toute période de transition. Pareil. Transition. On a aussi Rosh Hashanah. C'est une transition de l'année précédente à l'année suivante. C'est la raison pour laquelle la transition est égale à remise en question. C'est ce que dit le Morazaken. Morazaken te dit, c'est déplacé en plein milieu d'année de commencer à dire, bon, on fait un bilan maintenant. C'est pas le moment. Ne fais pas de bilan maintenant. Pense pas à ta verrotte maintenant. C'est déplacé. Fais-le, soit à un moment qui est prévu pour ça, soit à un moment où, de toutes les façons, tu es déjà dans cet état d'esprit. Alors là, bon, tu vas commencer à regarder. Mais stam comme ça, en plein milieu d'année, commencer à faire un bilan sur sa verrotte, la Gemara Zaken dit, moi, je pense que c'est déconseillé. Alors sachez, juste deux secondes, sachez que sur ça, il y a beaucoup de grands maîtres du moussard qui sont pas d'accord avec ça. Ils disent non. Ils disent, toutes les occasions sont bonnes pour ouvrir le capot. Pour voir ce qui va pas.
Pourquoi pas?
Mais la Gemara Zaken n'est pas d'accord.
Mais d'avancer, pourquoi pas?
Mais c'est dangereux. Parce que tu peux tomber dans la déprime.
Oui.
Tu commences à double tranchant. C'est pour ça que l'Admor HaZaken dit, c'est quoi le juste milieu qu'il a trouvé? Juste milieu qu'il a trouvé, il a dit, on va penser à nos Averot, mais soit à un moment qui est prévu pour ça, soit à un moment dans lequel je suis déjà dans cet état d'esprit. Comme une période de transition, etc. Bon, quand tu as une période de transition, vas-y, tu peux y aller. Mais si c'est pas une période de transition, il n'y a pas de raison de, il y a pas de raison de s'en mettre en question. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple, ce soir vous allez rentrer chez vous, et tout d'un coup il y a une pensée qui vous passe par la tête. Est-ce que j'éduque bien mon fils? Qu'est-ce que vous faites avec cette pensée? Ben évidemment, quelle réponse vous allez arriver? Quelle réponse vous allez arriver? Je l'éduque bien comme il faut, je l'éduque à 100% comme il faut. C'est sûr que vous allez trouver des points faibles. Non mais imaginez, ce soir vous rentrez à la maison, t'as une petite pensée qui devient dans la tête qui dit, est-ce que j'éduque bien mon fils?
La réponse est on verra.
Non mais maintenant, je me pose la question.
La réponse,
et je commence à faire un bilan, et l'école, et la maison, et les sorties, etc. Mourad Zakaïn te dit, écoute, théoriquement, il n'y a pas de problème. Tu peux remettre en question. Il n'y a pas de problème. Mais c'est dangereux, parce que, qu'est-ce que tu veux? Où tu vas arriver? À quel conduit tu vas arriver? C'est dangereux. C'est quelque chose qui tourne. Ne l'arrête pas. Par contre, quand c'est une période de transition, par exemple, l'enfant il va passer à une classe supérieure, par exemple, il y a des vacances, etc. C'est une période de transition. Là, c'est un moment dans lequel tu peux te remettre en question. Tu peux dire, bon, maintenant qu'il y a une période de transition, prochaine classe, prochain trimestre, prochaine année, etc. Je vais réfléchir. Je vais me dire, bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et ça, il n'y a pas de tabou sur ça, de remettre en question. Mais stable comme ça, en plein milieu d'année, remettre en question, ça va pas. C'est comme dans le business. Ceux qui sont dans le business. D'accord? Est-ce que d'après vous, on avait parlé de ça, ça fait quelques temps. Est-ce que d'après vous, c'est normal une personne qui est en plein milieu d'année, qui commence à vouloir faire un bilan? Il veut faire un bilan, est-ce que l'affaire elle marche? Alors qu'il n'y a pas d'indicateur spécifique. Si déjà il est dans le rouge, qu'il a fait un bilan, je veux bien comprendre. Mais il n'y a pas d'indicateur spécifique, ni dans le rouge, ni dans le vert. Ça tourne. Et il dit, tiens, je vais faire un bilan. Hein, qu'est-ce que lui répond le manager? Monsieur Benita.
Ah ben, ça dépend de la situation dans laquelle il se trouve.
Je viens de vous dire qu'il est ni dans le rouge, ni dans le vert. Et ça tourne.
Dans l'orange.
D'accord? Ça fonctionne. On nous dit, ne touche pas. Attends la période qui était prévue, attends la fin d'année, etc. Là, tu fais un bilan. Mais stam, comme ça, faire un bilan, c'est dépassé. Ça, c'est la technique de l'initiative de Morazaken. Alors, il dit comme ça, il dit, « Okar blishum siba, azai ishia ta kosher, le hafecha etsev, liot me mari de chushbena ana. » Alors, j'accélère un petit peu. Hein. 72. On a la page 72 maintenant.
Okay.
Il est prévu. Tant qu'il est prévu, c'est bon.
On ne doit pas le faire tous les soirs, le bilan? C'est pas la même chose.
Tous les soirs, le bilan que tu fais tous les soirs, il faut te limiter au bilan de tous les soirs.
Il est anonyme alors quand même, c'est tous les jours.
Mais c'est un bilan de tous les soirs. C'est pas un bilan de toute l'année. Ça veut dire que quand je fais le bilan du soir, je dois pas commencer à remettre en question mon année.
Mais charité, on le fait tous les jours.
Oui, j'ai compris. Mais ce soir, par exemple, d'abord, en général, c'est une fois par semaine. Mais quand on fait le bilan, une fois par semaine, okay, ou bien une fois par soir, comme vous voulez. Je vais faire le bilan sur ce qui est prévu. C'est-à-dire, je fais le bilan sur la journée, sur la semaine. Quand je commence à dire, oui, mais attends, on va remettre tout en question depuis le début de l'année, on dit, stop, arrête-toi là, laisse tomber. Laisse-le. Laisse tomber. Occupe-toi de la journée. Ne t'occupe pas du reste. Parce que, ça sert à rien. Quand il y a un moment qui est prévu pour ça, là, tu remets en question. Sinon, tout le temps, on remet en question, on peut pas avancer comme ça. C'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour les gens qui sont autour de nous. Imaginez. Si vous avez une femme, vous avez un enfant, ou nous-mêmes, on est comme ça, tu remets tout en question tout le temps. Un peu plus. Hein? Ça suffit. C'est bon, ça. Allez, c'est terminé. Tu ne peux pas tout remettre en question tout le temps. Il faut laisser des pauses et là, dis bon, écoute, tu fais ça et ça comme ça, je pense qu'il faudrait faire comme ça. Comme ça. Je propose que je pense que ça devrait être mieux comme ça. Très simple. D'accord?
En général, ça se soulève que quand on a des problèmes ou quand on rencontre des difficultés dans une action.
Pas forcément, pas forcément. Pas forcément.
Autrement, il n'y a pas lieu de faire un bilan.
Si, parce que là, on parle d'un juif qui sent que c'est bouché. Donc, il se dit, il y a un problème. Il y a un problème. L'Admor HaZaken lui dit, il y a un problème, mais tu n'es pas obligé de le régler tout de suite. Attends que la situation se présente, qu'il y a un Rosh Hashanah, qu'il y a un Kippour, il y a un Kriyat Shema, etc. Et là, tu commences à te remettre en question. Stam comme ça, en pleine journée, commencer à penser à ta Averot, c'est pas le moment. C'est dangereux. C'est dangereux parce que tu risques de déprimer à cause de ça. Et c'est pas le but.
J'avais dit c'était un appel du Yitzhara.
Alors, non, là c'est pas la même chose. C'est un appel du Yitzhara hein, si la pensée elle est pas programmée. Imagine-toi que moi je sens que ça marche pas et je veux programmer maintenant une pensée. Le Morazaken te dit ne la programme pas tout de suite.
D'accord.
Voilà. Si elle vient toute seule, c'est sûr que c'est du Yitzhara. Mais si elle vient pas toute seule et que je la programme, c'est quand même pas. Il faut savoir, comme dit Shlomo Meller, le roi Salomon, il dit la kol et uzman. Chaque chose a son temps, chaque chose a son heure. Chaque chose. Il dit là-bas, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, d'accord? Un temps pour danser, un temps pour marcher, etc. Il donne là-bas plus, une liste de plusieurs choses, le roi Salomon, dans les proverbes. Il y a un temps pour tout. Celui qui est là, en train de vouloir rigoler à un enterrement, c'est pas le moment. Maintenant, celui qui veut être là, être angoissé à un mariage, c'est pas le moment non plus. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il faut apprendre à vivre avec ça. Vous savez, je sais pas si vous savez, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, malheureusement. Plusieurs fois. Que tu vas à un esguerre. Donc tu vas à un esguerre. Comment tu te sens quand tu vas à un esguerre? Un esguerre ou un enterrement, etc. T'es triste. Et l'heure d'après, je vais à un mariage. Ça vous est déjà arrivé, ça?
Mais ils le font en Israël, le lion Mazikaron.
Non, mais attendez, c'est différent, là. Là, je parle à quelqu'un que vous vivez, pas quelque chose de lointain. Quelque chose.
C'est grâce à Dieu.
Hein?
Oui, mais toi, tu as
ça m'est arrivé plusieurs fois.
Oui.
Plusieurs fois.
Ça m'est arrivé, oui.
Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Oui. Je vais quelque part, il y a un esguerre, chose comme ça, et après, j'ai un mariage. Quoi, une bar mitzvah. Bien sûr, j'ai le droit.
Ah bon?
Mais moi, je suis pas en deuil.
D'accord, mais moi, enfin, quelqu'un qui.
Tu as le droit?
D'accord.
Ben, le dîne est. Il y a pas de problème. Mais alors c'est difficile parce que quand tu es à l'enterrement, tu penses pas au mariage. Et quand tu es au mariage, tu n'as pas pensé à l'enterrement. Maintenant, on est humain, donc forcément il y a des idées qui te reviennent. Mais il faut apprendre à vivre avec le moment, vivre le moment. Ne pense pas à ce qui s'est passé avant, ne pense pas à ce qui s'est passé après. Apprends à vivre le moment. La colle est tout de même, chaque chose a son temps. Quand c'est le moment de faire teshuva, fais teshuva. Quand c'est le moment d'avancer, avance. Chaque chose a son temps. Vous vous rappelez, on avait, Dan, il se rappelle certainement. On avait donné une grande technique de management, ce que la Gemara Zaken avait donné. On m'a dit qu'aujourd'hui, c'est une grande technique de management, d'apprendre à vivre le moment. Vous vous rappelez de ça? J'en ai parlé récemment à Fabringen. On dit que le Rajba, vous avez entendu parler du Rajba? Le Rajba est un des plus grands maîtres qu'on ait connu dans l'histoire juive. Dans l'histoire juive. C'était quelqu'un qui a vécu en Espagne, principalement, un petit peu en Italie aussi, mais surtout en Espagne. Et le Rajba, hein, il a écrit énormément de responsa, dont on n'a qu'une partie. C'est quoi des responsa? C'est-à-dire que les juifs du monde entier lui ont adressé des questions. Il a vécu il y a environ 800 ans, quelque chose aujourd'hui. Et donc, les juifs du monde entier lui ont adressé des questions et il répondait. Ça, c'était son premier poste. À part ça, il était Rosh Yeshiva. Il y a des Rosh Yeshiva qui font un cours par semaine. Lui, il faisait un cours par jour. Il y a même des versions qui disent qu'il faisait deux cours par jour. Maintenant, un cours du niveau des élèves du Rajba, il faut le préparer parce que tu ne le sors pas de ton chapeau, le cours. Donc, à part ça, il était Rosh Yeshiva. À part ça, il était docteur. Docteur. Et il consultait tous les jours. Attends, c'est pas fini. À part ça, il était père de famille. Une grande famille. Et à part ça, il avait le temps tous les jours de faire une balade.
Eh oui. Ah, c'est impossible. Ah,
il dormait pas.
Il a combien d'heures, le mec?
Il dormait pas,
c'est exactement. Son secret, c'est quoi?
C'est courir l'effet.
Alors, une fois le rabbi a raconté ça. Il a dit que les élèves du Rajba avaient du mal à le suivre. Ils ont dit, je comprends pas, nous on fait un poste que toi tu fais.
Ça prend la journée.
Nous on est à la Yeshiva, et ça y est, même quand on rentre à la maison, on est là, on n'arrive pas, on pense, etc. Comment tu fais? Comment vous faites? Le Rajba, il leur a répondu la chose suivante. Il leur a dit, c'est quoi mon secret pour faire 5 choses en même temps? Enfin, en même temps, non, mais 5 choses dans la même journée. C'est que chaque fois que je fais quelque chose, je pense ni à ce que j'ai fait avant, ni à ce que je vais faire après. Je pense à ce que je suis en train de faire maintenant. Quand je suis en train de me balader, je pense pas à ce qui s'est passé avant et ce que j'ai à faire dans une demi-heure. Je pense à ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, j'ai une demi-heure dans laquelle je dois respirer de l'air frais. Eh ben, je prends l'air.
C'est pas évident.
Bien sûr, c'est pas évident.
Les bouddhistes,
évidemment. Évidemment.
Tu penses à ton cours, toi.
D'accord. Mais ça, c'est le secret du Rajba. Ça, c'est le secret du Rajba. Et ça, le rabbi l'a répété plusieurs fois. Vous voyez, des fois, par exemple, il y avait des fois, hein, des gens qui venaient chez le rabbi et ils avaient un avion à prendre. Alors, ils avaient un avion à prendre. Vous savez, une personne qui a un avion à prendre, surtout à l'époque, enfin, aujourd'hui, on a tous les smartphones qui disent si l'avion a leur temps, etc. Mais à l'époque, quand il y avait l'heure, les gens, le rabbi avait fait un Fabringen, et il voyait les gens comme ça, avec les montres, comme ça. Tu les sens, tu vois déjà.
Oui, c'est
parce qu'ils venaient, ils avaient les bagages qui étaient à l'entrée du 770, et bon, ils sont venus profiter encore un petit peu d'un cours du rabbi. Et ils regardaient les montres, et le rabbi leur a dit, le secret, c'est de vivre le moment. Le Elal, il prenait le Elal, d'accord? Le Elal, t'inquiète pas, il t'attend. Il va être créé plus tard pour toi, parce qu'il est créé à chaque instant. Maintenant, on a un cours de Torah, profite du cours de Torah. C'est le secret de la réussite dans le temps. Vivre le moment. vivre pleinement le moment. Quand on arrive à être comme ça, on peut faire des tas de choses dans une journée. On peut avoir, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des journées comme ça où je fais plusieurs choses, plusieurs postes complètement différents l'un de l'autre. Et quand on arrive à être comme ça, je rentre à la maison, je suis père de famille. Je vais au boulot, je suis employé, je suis patron. Chaque chose que je fais, je suis à fond dans ce que je fais. C'est exactement ce qu'on a dit ici l'Admor HaZaken. Tu dis, le secret de la réussite, c'est quoi? C'est de pas venir commencer à mélanger des choses qui n'ont rien à voir. Le Shabbat, c'est le Shabbat. Les fêtes, c'est les fêtes. Kippour, c'est Kippour. Teshuvah, c'est Teshuvah. Chaque chose a son temps. Quand tu fais comme ça, ben c'est comme ça, c'est le secret de la réussite. Ça, c'est la réponse que le Rashba avait donnée à ses élèves. D'accord? Voilà. Donc Dan, il m'avait dit une fois que c'était un principe de management. Savoir apprendre à compartimenter. Comme ça on dit? Ah voilà, compartimenter.
D'accord,
en fait. Ben, ça veut dire que, être capable de faire des compartiments dans ton cerveau, te dire, il y a le compartiment père de famille, il y a le compartiment dans ce métier, il y a le compartiment avec tel fournisseur, un compartiment avec tel fournisseur, quelque chose en général. Imagine-toi par exemple que tu vas avoir plusieurs fournisseurs ou plusieurs clients, et qu'avec le premier client ça s'est mal passé. Quand tu vas avec le client numéro 2, directement t'es nerveux, donc t'arrives pas à faire ton affaire. Alors que le client numéro 2, c'est un excellent client potentiel, donc tu l'as raté à cause de qui? Du client numéro 1. Maintenant si le 1 il est raté, c'est pas pour autant que le 2 doit être raté. On n'arrive pas, c'est difficile. Parce que pour moi, ma journée, elle est ratée. Non, ta journée n'est pas ratée. Le 1 a été raté. Maintenant, il y a le 2. Le 2, c'est un nouveau client, c'est un nouveau monde. Donc, faut réussir à effacer ce qu'il y a. J'ai dit, bon, celui-là, on ferme le dossier, on verra plus tard. Maintenant, j'ai un nouveau client. Hein? J'ai passé une journée horrible aujourd'hui au boulot, je rentre à la maison. Quel rapport entre la famille et le boulot? Pourquoi? Parce que j'ai passé une journée horrible au boulot. C'est pour ça que quand je rentre à la maison, ma famille aussi doit passer une soirée horrible. Quel rapport? Il n'y a pas de rapport, c'est deux choses différentes. C'est seulement en général ce qui se passe. J'ai passé une journée horrible, la soirée sera aussi horrible. Alors qu'en vérité, ça n'a rien à voir. Si j'arrive à compartimenter de dire la journée, c'est la journée, la soirée, c'est la soirée, j'ai tout gagné. Compartimenter. C'est ça ce que dit Selma Razaken. Razaken, il dit, notre vie est compartimentée. Dans notre vie, il y a des moments pour être joyeux, des moments pour être triste. Quand c'est un moment où je suis déjà triste, là, je me remets en question. Si c'est pas le moment, laisse tomber. Pense pas, commence pas à penser à ta vérité. Ou basé, il pater, mais atzvut chemile des alma. Ok. Maintenant. Beacharkar. Je saute un petit, voilà. Je suis au milieu de la page.
Troisième ligne.
Quelle page, là?
72.
Troisième ligne. En hébreu.
Beacharkar, et ensuite, yavolide simcha amitit. Une fois qu'une personne est passée par la tristesse, c'est là qu'il peut passer par la vraie joie. Daïnou, ça veut dire... Alors là, je vais expliquer. Est-ce que vous avez remarqué comment sont structurés les fêtes de Tishri? On commence par quoi? D'abord avant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mois d'Elul. Qu'est-ce qu'on fait dans le mois d'Elul? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le thème du mois d'Elul?
Le bilan.
Ensuite, Rosh Hashanah.
Le jugement.
Jugement. Comment je me sens le jour du jugement?
Mal.
Bon, voilà, pas mal, mais bon. Je suis jugé, d'accord? Non, c'est un moment important, c'est un moment solennel. Ensuite,
Kippour. Très stressé.
Pas stressé, mais voilà. Et après Kippour. Après, vas-y, on s'éclate. Mais quel rapport entre les deux? On dirait qu'il y a un bouton, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait des piles pour être triste, des piles pour être joyeux. Après qu'il on a dit, bon, allez, ça y est, basta, on en a marre d'être tout angoissé. On enlève ces piles, on met des nouvelles piles, maintenant on est joyeux. Comment ça marche? Comment je peux être, pas triste, mais on va dire, oui, triste, c'est le bon mot. Ça veut dire, j'ai une tristesse profonde. Ça veut dire, j'ai une crainte profonde à Kadosh Baruch Hu. Une crainte, et un moment très solennel. Et après, pac, on arrive, on se tichrit, switch. On passe à la simra. Comment c'est possible? Vous savez ce que dit l'Admor HaZaken? L'Admor HaZaken nous apprend un grand principe dans la vie. Il dit, la vraie joie peut venir seulement si on est passé par la tristesse. Pourquoi on est Bessimcha pendant les fêtes de Sukkot? Parce qu'on est passé par les fêtes, première fête de Tishri, par les Yamim Noraim, par les jours redoutables, et qu'on a ressenti ce que c'est, et qu'on a compris que c'était pas forcément gagné, et qu'après on a l'Emouna que c'est gagné, là on a une joie. C'est pas dès le départ je savais que c'était gagné. C'était pas gagné, on s'est battu pour ça. Quand je me suis battu, et qu'après j'ai l'Emouna que le problème a été réglé, que Baruch Hashem, Hashem m'a accordé une bonne et douce année, dit Amen. D'accord? Alors là, je suis content. Parce que je me dis, c'était pas facile, j'ai réussi, et donc je suis content. Pour apprécier la joie de quelque chose, il faut que je sois passé par un moment de tristesse.
Tu veux dire que quelqu'un qui passe par
par exemple, qui passe à côté de Elul, Rosh Hashanah et Yom Kippour, il ne peut pas arriver à Sukkot avec la Simcha.
Impossible.
Il va arriver avec impossible.
Il est à côté de la plaque, complètement. C'est comme si une personne, il est dans un boulot dans lequel il n'a pas besoin de se fatiguer. Il ne peut pas être joyeux du résultat. Il peut faire un résultat, mais il ne peut pas être heureux et joyeux du résultat. Pour être joyeux d'un résultat, il faut être passé par le doute. Il faut être passé par l'incertitude.
Un jeune qui a triché à un examen et qui a gagné, il n'a pas le même.
Évidemment. Le Talmud dit comme ça, la Gemara dit En simcha, d'accord, qui a tarat à sfekot. Il n'y a pas de plus grande joie que quand on arrive à enlever les doutes. Vous savez, ça nous arrive des fois dans la vie, on a des doutes. Je sais pas, je fais ci. Et après un moment, des fois on peut rester longtemps comme ça. On peut rester des fois des mois comme ça. T'as un doute, une question, tu sais pas quoi faire. Et à un moment, tu arrives à te décider. Ouais. Le sentiment que tu as. Mais ça, la joie que tu as, c'est une joie que tu peux avoir seulement parce que tu es passé par des moments où tu étais dans le doute, des moments d'incertitude, des moments de tristesse. Donc l'incertitude, c'est la tristesse. Et là, quand tu arrives à la solution, là, tu es Bessimra. C'est ce que dit l'Edmond Razaken. Razaken te dit, il ne faut pas avoir peur des moments de tristesse. On les programme, ils seront à des moments donnés, mais il dit, t'inquiète pas, même si tu passes par un moment de tristesse, après ce moment de tristesse viendra une vraie Simra. Une vraie simcha, une simcha qui est issue de la tristesse. Comme il est écrit dans Tehilim, on le dit d'ailleurs dans le Birkat Hamazon, le Birkat Hamazon de Shabbat, Azorim bedim'a berina ikto. Traduction.
Celui qui sème avec les larmes.
Ceux qui sèment avec les larmes récolteront avec la joie. Alors Paul Rabbi l'a expliqué, il a dit, comment comprendre ce verset? Celui qui sème avec les larmes, il pourra récolter avec la joie. Est-ce que ça veut dire que celui qui n'a pas semé avec les larmes, mais qui a semé tout court, il ne peut pas récolter avec la joie?
C'est pas pareil.
Oui, c'est ce que le roi David veut dire. Parce que sinon, oui, parce que, regardez bien, il aurait pu dire, celui qui sème, il va récolter. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, celui qui sème avec des larmes, c'est lui qui va récolter avec la joie. Ça veut dire que pour récolter avec la joie, il faut avoir semé avec des larmes.
Il faut peiner.
C'est une question d'effort.
Une question d'effort. Plus j'ai fourni un effort, et plus j'arrive à être content du résultat. Quand tu prends un enfant, par exemple, qui est né, qui n'est pas arrivé facilement, et qui a pleuré, que tu t'es occupé de lui, etc., quand tu arrives à profiter de l'enfant, là, tu as une joie. Pas directement, il est tombé comme ça, on a mis directement...
C'est limite orgueil, quoi. C'est genre...
Non,
c'est, moi qui
non, c'est pas l'orgueil, c'est pas l'orgueil, c'est mais c'est une satisfaction. Je sens que j'ai fait quelque chose.
Mais même quand on parle du génie, on dit on a un truc génial, on dit que c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration.
Obligé. On ne peut pas compter sur l'inspiration. Comment ça marche? Et c'est ce que dit ici Edmond Razaken. Edmond Razaken te dit, donc je reprends, pour qu'on voit un peu plus clair.
C'est le laboureur de la
Il te dit comme ça. Edmond Razaken te dit comme ça. Il te dit, je résume ce qu'on expliquait depuis le début du cours. Il faut d'abord faire la différence entre la tristesse et la déprime. La tristesse, c'est bien, ça me pousse à avancer. La déprime, c'est mauvais. Bon, imaginons maintenant que j'ai envie de me remettre en question sur ma Averot. Pour arriver à une tristesse, et pour, grâce à ça, avancer. La Mourazek te dit, dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Mais c'est dangereux, parce que tu risques de basculer très rapidement de la tristesse à la déprime. Alors ce que je te conseille, dit la Mourazek, attends un moment qui est prévu pour ça. Comme la fin de l'année, comme un moment de transition, comme un moment où, dès le départ, c'est un moment comme ça, un moment de transition. Et là, à ce moment-là, fais ton bilan. Et n'aie pas peur du bilan. Il est fort possible que quand tu vas faire le bilan, tu vas avoir un coup d'angoisse. Vous savez, des fois, comme ça, on n'a pas envie d'ouvrir le capot, et quand tu ouvres le capot, tu dis, oh là là.
Si tu trouves pas le moteur, c'est
que... Ah oui, t'as embêté.
Tu fais ça.
Ah, mais c'est-à-dire, tu vois, par exemple, tu vois, tu éduques tes enfants, tu fais, etc., tu avances, tu dis, bon, ça va. T'as une petite voix au fond de toi qui dit, mais vérifie quand même, est-ce que ça va? Tu dis, ça va, on verra après. Et après un moment, tu arrives au moment du bilan, et tu dis, ça va pas. Alors, Morazaken te dit, si c'est un moment qui est programmé, et c'est un moment qui est pour ça, t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer par un moment de tristesse. T'inquiète pas. Après cette tristesse, viendra la joie. Après la tristesse, viendra une grande joie. La joie de pouvoir revenir vers un Kadosh Baruch Hu, la joie de pouvoir avancer. C'est ce que dit Shlomo Razaken. Alors, comment on retrouve la joie? Vous savez, des fois, ce qui peut arriver, des fois, quand on fait teshuva, on peut se dire, mais je suis foutu. Je suis tombé tellement bas, il reste plus rien. C'est fini, je suis plus juif. Il n'y a plus rien. c'est mort. Et c'est là qu'il faut ramener la joie. C'est là qu'il faut, c'est là qu'il faut revenir, se dire, attends, malgré tout ce que j'ai fait, bien que j'ai fait toutes ces bêtises, il y a quand même au fond de moi l'essence de mon âme qui n'a pas été touchée. Et ça, c'est la joie. C'est quand tu récupères, quand tu reprends. Ça veut dire au début, tu vois que l'affaire ne marche pas. Tu dis, tac, 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 ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Chlet. Et après, tu dis, oui, mais quand même, on a un bon fond, on a une bonne idée, on a un bon concept. Allez, on redémarre. C'est la simra qui vient après la tristesse. C'est exactement ce qu'on fait ici. On va lire dans les mots. Vous allez voir comment c'est magnifique les mots qu'il va employer. Je pense que chacun de nous peut passer par là. Achar. Daïnou, ça veut dire. Daïnou, ça veut dire. Voilà, c'est... Je suis au milieu de la page 72. Daïnou, ça veut dire. Shezot yassim el libo le nachamo bekiflaim. Après cette tristesse, voilà à quoi il pensera pour se consoler doublement. Achar advarim ve'emet ha'ele anal. Il ne remet pas en question la tristesse qu'il a eue. Il ne remet pas en question. La tristesse est juste. Il se remet en question. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il dit, Ar kol zewani levadi ou ar gouf, il dit, mais finalement, qui c'est qui a fauté? C'est mon corps et mon âme animale. Aval mikol makom, mais néanmoins, c'est vrai que mon corps a fauté. C'est vrai que mon corps est tombé bas. C'est vrai que mon âme animale a fauté. Mais à part ça, qu'est-ce que j'ai à part le corps et l'âme animale? J'ai une âme divine. Aval mikol makom, mais néanmoins, yesh bekirbi, il y a dans mon cœur, il y a en moi, chelek hashem mamash, une partie de Dieu. Chez yeshno, que cette partie de Dieu se trouve à filou bekal shebekalim. Même chez le juif le plus simplé de simplé. Donc il dit, attends, tu crois que c'est vrai que d'un côté j'ai une âme animale qui a fauté, mais d'un autre côté j'ai une âme divine. Et cette âme divine, elle a un très gros potentiel. Donc c'est exactement comme l'exemple d'un business. Il arrive à la fin de l'année, il fait le bilan avec le comptable, avec tout le monde, et il voit que l'affaire ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il dit le comptable? Il dit, ben dans ce cas-là, si l'affaire ne marche pas, si on est dans le rouge, qu'est-ce qu'on fait? On ferme. Mais là, t'as le manager qui dit, mais attendez, le patron qui dit, mais attendez. C'est vrai que l'affaire ne marche pas, mais le concept est bon. Alors on va voir si on peut pas trouver des investisseurs, je sais pas, si on peut pas trouver quelqu'un parce que le concept est bon, c'est dommage. C'est dommage de tout casser à cause que ça fonctionne mal. C'est vrai que ça a mal fonctionné, mais le concept est bon. C'est quoi le concept? Le concept, c'est l'âme divine. Et c'est comme ça qu'on se reprend. Quand on arrive à Rosh Hashanah, quand on arrive à une teshuva, je sais très bien que j'ai mal utilisé, que je me suis mal comporté. Mais le concept est bon. J'ai une âme divine, et si j'arrive à bien m'en occuper, ça marche. Je m'en suis mal occupé, ça a mal marché. Donc c'est comme ça qu'on se console. Ça, c'est la joie qui vient après la tristesse. Quand je me console, je me dis, c'est vrai que j'ai mal agi, mais néanmoins, j'ai la possibilité de revenir parce que le concept est bon, le fond de moi est bon. Alors, chez Hine Fesh Elokit, c'est très extraordinaire ce qu'il va dire ici. Imnitsutz Elokut Mamash Amelubash Bale Achayota Rak Shehi Vrinat Galut. Vous savez ce qu'il dit? Il dit comme ça. On parle beaucoup de l'exil. C'est quoi l'exil? L'exil, c'est l'emprisonnement. On est en exil. C'est quand une chose est enfermée. La Gemara Zaken dit, en vérité, notre âme divine est en exil en nous. Il est en exil en nous. C'est-à-dire que j'ai une âme divine, mais je l'ai mise en exil. Je la laisse pas s'exprimer. Et donc, comme elle est en exil, je me dis, mais au final, j'ai un concept extraordinaire en moi, je peux le développer. C'est moi qui veux pas le développer, c'est de ma faute. Exactement, comme on dit dans les parachutes actuellement, c'est mon Mitzrayim, c'est notre Égypte. Et sur ça, je voulais vous rajouter un élément que j'ai lu récemment dans une lettre du Rabbi. Il y a une personne qui adresse une lettre au Rabbi et qui lui dit, il sent que le judaïsme l'emprisonne. Et dans le judaïsme, il y a beaucoup de mitzvot, avérot, etc. Il sent que, Ramma, comme ça ils disent,
Ramma,
ça l'angoisse. Il sent qu'il n'est pas libre. Comment on peut dire, comme on lit dans la parasha cette semaine, que depuis la sortie d'Égypte, on est devenu des hommes libres? C'est quoi un homme libre? Est-ce qu'un homme libre, c'est une personne qui fait pas ce qu'il veut? Pour moi, un homme libre, c'est un homme qui fait ce qu'il veut. Libre! Alors là, tu mets les interdits, ne fais pas ci, fais pas ci, fais pas ci, je suis pas libre. Je suis esclave. Pourquoi tu m'appelles un homme libre? Alors, le rabbi, il a répondu par l'exemple suivant. Il a dit, est-ce que vous avez déjà été dans un zoo?
Un zoo.
Quand vous allez dans un zoo, vous voyez les animaux, regardez-les dans les yeux. Regardez là-bas le lion, d'accord? Ils sont très tristes. Pourquoi ils sont tristes?
Ils sont en prison.
Pourtant, attendez, pourtant, ils sont très bien nourris. Peut-être même mieux, certainement, mieux que dans la forêt. Parce que dans la forêt, ils doivent se battre. Là, ils n'ont pas besoin de se battre. On leur sert tout ce qu'ils veulent. Ils dorment, ils mangent, ils font ce qu'ils veulent. Et avec ça, on les ovationne, on les aime, on les regarde, ils ont des fans. Et c'est le top. Et pourtant, tu les regardes, ils sont dégoûtés. Ils sont déprimés. Pourquoi ils sont déprimés? Pourquoi ils sont déprimés? Parce qu'ils sont en dehors de leur contexte, voilà. En dehors de leur élément. Quand une personne est en dehors de son élément, tu peux lui donner la meilleure nourriture possible, les meilleurs cadeaux possibles. Quand il n'est pas dans son élément, il est angoissé et il n'est pas bien. Et là-bas, dans cette lettre, le rabbi, il dit c'est la même chose. Un juif ne peut pas être heureux avec une goya. Pourquoi? Parce qu'un juif avec une goya, il n'est pas dans son élément. Maintenant, elle peut être très belle, elle peut être très riche, elle peut ne pas lui prendre la tête, etc. Tout ce que tu veux.
Surtout.
Et pareil, les jeunes hommes, ils me disent maintenant, c'est la mode, ils regardent un peu ailleurs parce qu'ils disent, on dit que les non-juifs en prennent moins la tête. C'est possible.
Hein? Il y a pourtant, enfin, qui ont l'air
mais c'est
heureux,
pas la question.
Hein? Il y en a qui ont l'air heureux.
Encore une fois, tu peux avoir l'air heureux. Il peut manger comme le lion il mange dans la cage. Il peut dormir comme le lion il mange dans la cage. Il peut avoir des fans, etc. Et celui qui va dire, mais regarde, il mange, il dort, il boit, il est super. Mais au fond de lui, le lion,
il est pas bien.
Pourquoi il est pas bien? Tu le vois d'ailleurs. Il est tout frais. Pourquoi il est pas bien? Il est pas bien parce qu'il est pas dans son élément. Il est pas dans son élément. Ça veut dire que ce même lion, quand tu vas le mettre dans la forêt, où il va devoir se battre pour avoir ce qu'il a, il dit, ah, mais c'est pas la liberté, c'est de se battre. Non, mais c'est ça, sa liberté. Sa liberté, c'est quand il est dans son élément. C'est la même chose. L'élément d'un juif, c'est quoi? C'est faire des mitzvot. Un juif qui ne fait pas les mitzvot est en dehors de son élément, donc il peut pas être heureux. Et le rabbi dit clairement, il dit, un juif qui ne fait pas Torah mitzvot ne peut pas être heureux. On parle pas de se comporter comme quelqu'un d'heureux. Je parle être heureux. Être au fond de soi heureux. Il dit clairement, une personne qui n'accomplit pas la Torah et les mitzvot ne peut pas être heureux. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Pour terminer le raisonnement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que notre âme divine, on va l'enfermer en nous. On dit, toi, tu te tais. Donc, bien sûr, tu ne la laisses pas parler. Elle ne parle pas. Au début, elle parle, elle te dit, mais attends, tu sais, il faudra arranger ci, il faudra arranger ça. Après un moment, tu ne la laisses pas parler. Eh bien, elle ne parle plus. Mais elle est toujours là. Le jour où tu la laisses parler, elle est toujours là, elle fonctionne très bien. Il suffit juste de la laisser parler. Quand tu la laisses parler, automatiquement elle parle. Je vous raconte une petite anecdote après la question. Une fois, il y a un juif, un américain, religieux, etc. et tout. Et bon, il rentre dans une boîte et il monte de niveau en niveau en niveau, etc. Et à un moment, on lui dit, écoutez, on a une proposition pour vous. Est-ce que vous voulez aller dans telle et telle ville? Et on va vous augmenter la paye, mais vraiment considérablement. Alors, il pose des questions, il dit, mais est-ce qu'il y a là-bas une synagogue, etc. Il dit, bon, écoutez, un truc réformé, etc. Pas terrible, mais bon. Lui, il est là, il se pose la question, etc. Il fait chier avec sa femme. Il dit, bon, allez, on ira là-bas, on se débrouillera. Et il est parti, il a pris le poste. Après, avec le temps, le manager de là-bas, il appelle, il lui dit, écoutez, on va vous mettre au plus haut poste, responsable de l'antenne locale. Mais il y a un problème. C'est que dans ce pays, il y a une loi que une personne qui est juive ne peut pas accéder à ce poste. Alors si vous voulez accéder, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous convertir. Ah, c'est compliqué. Bon. Alors il en parle avec sa femme, etc. Ça veut dire, écoute, comment on va faire? Le Shabbat, les bougies du Shabbat, la Daphina, etc. Après il réfléchit, il pèse le pour et le contre, etc.
C'est bien payé.
Et il pèse le pour et le contre. Et à la fin, bon, ils disent, allez, je vais le faire. Et il s'est converti. Il a tout arrêté. Bon, il est converti, grâce à Dieu. Enfin, je sais pas si c'est grâce à Dieu. Il a une paye qui augmente, etc. Il est vraiment, il a tout l'argent qu'il veut, etc. Il élève des petits-enfants comme des goïms. Et au bout de quelques mois, sa femme, elle a des remords. Il se rappelle les bougies de Shabbat, la table de Shabbat, le kidouche, le repas, etc. Et elle en parle à son mari. Elle dit, viens, ça serait bien, on redevient juif. Enfin, on est toujours juif, mais viens, on redevient juif. Elle lui parle, viens, on redevient juif. Et je lui dis, mais laisse tomber, ça va, c'est pas grave, oublie. Lui, il va oublier avec le temps. Mais elle n'oublie pas avec le temps. Et comme ça, il se passe des mois. Et bon, le mari, à la fin, il n'en peut plus. Un soir, il arrive à la maison. Il lui dit, bon, ça y est, j'ai décidé, on va redevenir juif. La femme, elle lui dit, maintenant, un mois avant Pessah, t'auras pas pu attendre après Pessah. Voilà.
Voilà. Hein, pour dire qu'il y a toujours le cœur, oui, dans le point du juif qui est toujours là, qui lâche pas.
Il n'y a jamais la juive.
Je dis ça parce que normalement, dès qu'arrive le mois de Shvat, les femmes, elles pensent déjà au ménage. Là, effectivement. Non, mais cette année, il y a deux Hadar, il y a deux Hadar cette année.
Deux Hadar, oui, il y a un mois d'avance.
Hein? Deux mois plus. Ah, parce que le mois de Shvat, un mois et demi avant. Shvat, non, deux mois et demi avant.
Merci. C'est pour ça qu'ils mangent tous leur
roche pour bien sûr. Ah, ben, c'est touriste par hasard. Bon, pardon, j'avais une question, Benjamin. Merci. Du oui, qu'on peut pas être heureux. Oui. Si, je me force. Oui, mais je me force à éteindre mon âme divine. Parce que dès qu'il va avec la Goya, il a des remords. Il n'est pas bien. Mais il se force à ne pas avoir des remords. Il se force à ne pas laisser son âme divine s'exprimer. Bien sûr qu'il se force. Au début, il n'est pas bien. Parce qu'il sait, je parle d'une personne qui est dans un contexte où on sait qu'on ne se marie pas avec une Goya. Il a des remords au début, il sait très bien que ça ne se fait pas. Il a des amis qui vont le dire, il a ses parents qui vont le dire, il a des remords au début. Mais après, avec le temps, il va apprendre à ne plus écouter ses remords. Et c'est pour ça qu'après, il n'aura plus de remords. Mais en vérité, au fond de lui, il a toujours une âme divine. Mais il ne la laisse pas parler, cette âme divine. Quand tu ne la laisses pas parler, bah, elle arrête de parler. Quand tu as quelqu'un qui est là, il parle, tu ne l'écoutes pas, bah, il arrête de parler. Mais le jour où tu lui dis, bon, maintenant je suis prêt à t'écouter, bah, là, il va déballer. C'est la même chose. L'âme divine, dès qu'arrive Rosh Hashanah qui pourrait qu'on la laisse parler, elle y va. Elle a toujours été là. Son moteur, il est intact, il est intouchable. Mais quand tu ne la laisses pas parler, bah, elle arrête de tourner. Voilà. Là, c'est la simra. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Pour illustrer la simra. Après que j'ai eu un coup de tristesse en me disant « Oui, mais j'ai fait des avérotes et c'est pas bien. » Je me rassure en me disant « C'est vrai que j'ai fait des avérotes, mais quand même, au fond de moi, j'ai toujours une âme divine qui est toujours là. Donc, je peux repartir. Donc, il ne faut pas que je tombe dans la dépression. Dépression, déprimé est égal, je ne peux plus rien faire, je tombe. Non ! Il faut que je tombe maximum dans la tristesse et même dans la joie. Me dire, c'est vrai que je suis tombé, mais j'ai les outils pour retourner. Donc, je vais retourner. Je peux retourner, je veux retourner, je vais retourner. Ça, c'est la simra. C'est comme ça qu'on fait teshuva.
Grâce à Dieu, tout va bien.
Non, j'ai pas dit tout va bien. Tout ira bien. Ça veut dire, j'ai un plan.
Voilà.
J'ai un plan.
Remonter la pente, c'est
bon. J'ai un plan. Je vois que je peux remonter la pente. Donc, je vais remonter la pente. C'est ce qu'il dit ici. Ça, c'est une simra qui peut venir seulement si t'es passé par un moment dans lequel tu te dis, mais comment on va faire? Et là, tu dis, j'ai trouvé la solution. Là, t'es une grande simra. C'est ce qu'il te dit. Alors, il donne une image extraordinaire dans la suite. Il dit comme ça. Il dit, au contraire, là, le Benoni, il va être très content. Il va se dire, mais tu t'imagines, en vérité, c'est extraordinaire ce que je suis en train de faire maintenant. J'ai mon âme divine qui était en exil en mon corps, dans moi, et je suis en train de la sauver. Il a sauvé son âme divine.
Il la ressuscite.
Il la ressuscite. Puisque l'âme divine, comme on va expliquer tout de suite, est comparée à un prince. Imaginez qu'on a sauvé le prince de l'exil. Hein, je vais vous la faire un peu dramatique. Il y a le prince qui est en prison et le roi lui-même ne peut pas faire sortir le prince de prison. Et moi, je vais aller, je vais faire sortir le prince de prison. Comment je vais me sentir? Au top! Le roi du monde. Ben, c'est la même chose. C'est qui le roi du monde? C'est Akadosh Baruch Hu. Kaviachol, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu lui-même, il peut rien faire contre moi. Quand j'ai décidé de mettre en veilleuse mon âme divine, il peut rien faire. Le roi lui-même peut pas sauver le prince. Et quand moi je décide de me reprendre, ben j'ai sauvé le prince. Vous imaginez? Ici, il parle littéralement de pidyon shvuim, de rachat des prisonniers. Quand je sauve mon âme divine, alors je sais que ça fait un peu catholique, hein, quand je dis ça, rachat des, mais c'est venu chez nous. Rachat des prisonniers, quand je reviens à la Torah, quand je rappelle mon âme divine, je rachète mon âme. Pas dans le sens comme eux, je paye ou je fais des bêtises. Je rachète mon âme dans le sens que je lui permets de sortir de sa prison. Je rachète mon âme. D'accord? Seulement eux, ils ont compris ça différemment. Bon, ouais, l'avenir.
C'est
on a...
la repentance.
C'est la repentance, ouais. Ils se repentent, alors.
Le fait de dire que la chouva, elle est à un certain moment.
Oui.
Pas à tous les moments, ça pose un problème talmudique. Si t'en fais, vous attachez chez Asman Gorma. Donc les femmes devraient être pour autre de la tchouva.
Il n'a pas dit que c'est une mitzvah qui dépend du temps.
Il y a certains temps.
Non. C'est un temps propice pour la tchouva, et c'est un conseil que donne Admor Zaken.
Donc en fait, on pourrait le faire tout le temps.
La tchouva, on peut la faire tout le temps.
Chaque minute.
Mais il te donne un conseil. Tu dis, comme c'est dangereux, les gens de l'époque, peut-être, de l'époque de la Gemara, eux, ils avaient peut-être un cerveau assez fort pour être capable de faire teshuva et juste après de passer à la joie. Mais nous, on n'est pas capable de basculer tellement rapidement. Donc comme c'est dangereux, il te dit, il faut que ce soit programmé, fais-le à certains moments, ne t'amuse pas à le faire tout le temps.
Mais ça, le problème, c'est comment on peut arriver à une chose pareille. Par exemple, je vais dépasser. Hein. Par exemple, les tefilines, il y a mercredi où je les mets tous les jours.
Oui.
Un beau jour, je vais dire, comme c'est dangereux de mettre tous les jours, on va les mettre une fois par semaine.
Non, 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 c'est pas la même chose, là. Parce que là, j'ai pas d'avéra sur laquelle je veux faire teshuva. J'ai envie de faire un bilan pour voir est-ce qu'il y a des avérotes sur lesquelles je dois faire teshuva.
Ah.
Bah oui. Je veux faire un bilan.
Mais moi, un gars comme moi qui a des avérotes, je sais que j'ai besoin de faire un bilan. Je sais des avérotes.
Bah je fais teshuva sur mes avérotes que je fais maintenant. Mais est-ce que pour autant je vais faire un bilan comment ça va depuis le début de l'année? Ça non.
Le bilan, il n'est pas besoin de le faire.
Voilà.
Par contre, teshuva sur ce que tu as fait.
Tout ce que je viens de faire, bien sûr, je dois le faire. Ah bah évidemment. Mais là, on parle, je commence à faire un bilan. Les bilans, c'est pas bon quand c'est pas au bon moment. Parce que ça déprime. Voilà. Donc, Imken, si c'est comme ça. Non, les mots. David, hein, il nous donne les pages. 73, attention, t'as un concurrent. Hein. Alors. Alors. Imken, en haut de la page, 73. Imken, si c'est comme ça, hein, parce que faute grave ce matin.
Ah oui, voilà, c'est vrai. D'ailleurs, il y en a un qui a relevé.
C'est une faute lourde.
Hein. Oui, faute lourde.
Ah, c'est une faute lourde.
Merci, Razak.
Il y a du monde qui va te défendre.
C'est une clause résolutoire. Alors.
Ah oui, il a déjà assez. Il a envoyé un SMS à ce coin, déjà assez.
Il y en a qui convoquent la place, ça ne va pas.
Alors, il dit maintenant, il fait Imken, si c'est comme ça, donc je suis au deuxième paragraphe de la page 73, s'il en est ainsi. Adéraba, au contraire, maintenant que je réalise qu'au fond de moi, j'ai une âme divine, et que cette âme divine, en vérité, elle est intacte, et elle veut retourner, et elle peut retourner, et elle va retourner. Alors, au contraire, je dois me dire que, kol ma she'ani, plus j'étais loin de Dieu. Et plus j'étais dans l'abomination et dans ce qui est sale. Donc mon âme divine qui était en moi, elle était dans un exil encore plus fort. Et donc, j'ai pitié de ma neshama. Velazé, c'est pour ça. Asim kol magemati. Je vais placer tout mon but, toute ma pensée, vechefti et ma volonté, leotzia ou lealota migaloudze, pour faire sortir ma neshama de cet exil, lehashiva el bet avia kin urea, pour ramener ma neshama à la maison de son père comme avant. Kodem shenitlapsha begufi shatan nichalet boruit ba'er muradim abitachet. Alors j'explique tout de suite. C'est magnifique ce qu'il dit ici. La neshama. Avant qu'elle descende sur terre, elle était comment?
Pure.
D'accord.
Ça veut dire quoi,
elle, pure. Elle était pure, ça veut dire qu'elle était pure.
Elle était déjà nettoyée.
Elle était propre, elle était nettoyée, elle n'avait aucune saleté.
Elle n'est pas d'avéra.
D'accord. Elle est neuve.
Elle
n'est pas d'occasion, elle est neuve.
Elle est neuve.
Bon. Maintenant, elle descend en bas.
Ici, c'est un guilgoul.
D'accord, bon.
Mais c'est ça.
C'est pareil.
Remise à neuf.
Non, mais elle
a été lavée. Elle a été lavée.
Elle est passée au pur.
Voilà. Maintenant, elle est neuve, elle est pure, Théora. Elle est clean, c'est propre. Ok. Neshama, Shenatanabi, Théoraï. Maintenant, cette neshama est descendue sur Terre. On est d'accord? Bon, sur Terre, il s'est passé beaucoup de choses. Et avec ce qui s'est passé, ma neshama est restée pure, mais on va dire que je l'ai encrassée. Ça veut dire que j'ai mis beaucoup de crasse autour, qui fait qu'elle n'arrive plus à s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plus ma neshama est tombée bas, et plus quand je vais remonter, bah finalement, je suis en train de sauver la neshama et lui permettre de revenir au statut initial qu'elle avait avant de descendre sur Terre. Donc je suis en train de sauver ma neshama. C'est très intéressant cette approche de l'Admor HaZaken. Parce qu'en général, l'approche qu'on a, c'est « j'ai fait une bêtise, je vais faire teshuva ». Et là, l'Admor HaZaken, il parle comme si c'était une troisième personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire, il dit « mon mauvais penchant m'a fait fauter, je vais sauver mon âme divine », comme si il y a des acteurs en moi, tu vois. Et que moi, je suis là, je vais sauver le monde. Tu vois, c'est-à-dire maintenant j'ai laissé parler la manimale, elle a fait des bêtises. Ouais. Maintenant elle, je la laisse plus parler. Celle-là, je la prends, je la sauve. Pourtant, on parle de moi dans tout ça. Ça, c'est une idée qu'on a depuis le début du Tania, ouais. Qu'il voit pas la personne, il voit pas la personne comme un être. Il voit la personne comme une volonté qui gère deux moteurs.
Comme trois personnes.
Non. Comme trois entités donc.
Ouais.
Ah oui. Une volonté, un moteur négatif, un moteur positif. Et moi, je décide lequel j'écoute. Donc quand je laisse parler le moteur négatif, je tombe. Quand j'arrête d'écouter le moteur négatif et je dis « je vais sauver le moteur positif », j'ai sauvé le monde.
C'est double schizophrénie, ça.
Oui. Vous imaginez? Ça veut dire que le gars, maintenant, il est en train de faire quelque chose sur une bêtise qu'il a fait. Et il dit « je suis en train de sauver Dieu ». Presque Dieu vient me dire merci, parce que j'ai sauvé le prince. J'ai sauvé le prince. J'ai sauvé la Neshama.
Qu'est-ce qu'il a
mais
fait
c'est lui qui l'a
avec nous, Dieu? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Depuis toutes ces années, pourquoi ils s'embêtent avec nous?
T'as le chapitre 36, toi. T'arrives bien.
Ah, on arrive.
Pourquoi ils s'embêtent avec nous?
Attends, chapitre 36.
Je comprends ta question.
Bien sûr, je comprends ta question. Elle est très importante, ta question. Hein?
Hein? Quoi?
Tu as le temps?
Saison 4.
Comment on peut être défini comme sauveur de l'âme divine à ce moment-là? Alors que c'est nous-mêmes qui l'avons mis en prison.
Très bien. Alors c'est moi qui l'ai mis en prison, c'est moi qui l'ai fait sortir de prison. Ça veut dire que chacun de nous, en même temps, est destructeur, en même temps, est sauveur. On est les deux en même temps.
C'est des romans, non ?
Ça veut dire que c'est beaucoup plus que, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on disait d'habitude. Je me suis sali, je me suis nettoyé. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est j'ai détruit, j'ai construit. J'ai sali ma neshama, d'accord ? Je nettoie ma neshama, je libère ma neshama, j'ai libéré ma neshama. On parle clairement de rachat des prisonniers. J'ai racheté ma neshama qui était en prison, qui était bloquée, qui était en exil.
Alors c'est qui ce jeune homme qu'il faut la salir alors ? D'aller à droite ou d'aller à gauche ?
C'est moi. C'est ça le moi.
Le toi, c'est toi qui choisis d'aller à droite ou d'aller à gauche ?
C'est moi, oui.
Et quand il y a à droite, c'est toi ?
C'est toujours moi.
Quand il y a à gauche, c'est toi ?
C'est moi aussi.
Alors, il est jugé parti en même temps.
Il n'est pas jugé parti, c'est lui qui décide.
Non, il est libre d'aller à droite ou à gauche.
Est-ce que c'est quand tu vas à droite ?
Monsieur Benita, imaginez que il y a ici une roue qui tourne, enfin une roue, une table qui avance, une table qui recule. Et moi j'ai le portable. D'accord ? Si je le pose sur la table qui avance, le portable va avancer. Je le pose sur la table qui recule, le portable va reculer. Le portable en soi, il est quoi ? Bah, il est rien lui. Ça dépend où je le mets. Qui va décider si le portable va avancer ou reculer ?
Toi.
C'est moi. Maintenant, le fait qu'il y ait une table qui recule, c'est son problème. Le fait qu'il y ait une table qui avance, c'est son problème. Mais à cause de moi, le portable va reculer. Parce que je l'ai mis dans un endroit qui reculait. C'est la même chose. Âme divine, âme animale. Quand j'écoute l'âme animale, je recule. Quand j'écoute l'âme divine, j'avance. C'est moi qui décide qui j'écoute. Mais là il explique qu'en vérité, quand je fais une avéra, je change le monde, Dieu préserve, en mal, donc je détruis le monde. Quand je fais une mitzvah, je change le monde en bien. J'arrange le monde. Je sauve le prince, un prince que le roi en personne ne pouvait pas sauver. C'est une approche complètement différente de ce qu'on a vu aujourd'hui. D'accord ? Alors, c'est pour ça qu'il a demandé à Zaken, pour conclure. Donc, c'est pareil, enfin, la conclusion est un peu longue, mais... C'est pour ça que Zilad Morazaken, il dit que chez Asim, Kol, Magemati, Betora ou Mitzvot, je vais accélérer un peu, hein, parce qu'on a expliqué pas mal à l'oral.
On est à 73 toujours.
60, je sais pas.
Oui, ils sont très en bas.
Voilà, en bas de la page 113. Dernier paragraphe. Que chez Asim, Kol, Magemati, Betora ou Mitzvot, l'albish, bahen, kolesser, prinotea. Comment je vais sauver mon âme? Je vais sauver mon âme en mettant tous mes efforts possibles pour essayer de faire en sorte que toute mon âme, tous les aspects de mon âme, les aspects intellectuels, les aspects sentimentaux, tous les aspects. Ou bifrat be mitzvot tefila, en particulier au niveau de la prière. Litzok el Hashem, patzar la migaluta be gofi ha-meshukatz, leotzia mimasger ou le dof kabo itbarer. Tu me dis là de Morazaken, il n'y a pas de plus belle tefila que la tefila d'une personne qui est en galère. Il n'y a pas de plus belle tefila que la tefila d'une personne qui est tombée bas. Quand je suis pas tombé bas, quand je fais la tefila, qu'est-ce que je dis à Dieu? Je dis bon, ça marche, fais en sorte que ça marche mieux. Mais quand je suis tombé bas, je dis Dieu, ça marche pas, fais en sorte que ça marche. Quand ma neshama est tombée très bas, je dis à Dieu, je t'en prie, je sais que je peux sortir, mais j'arrive pas à sortir, aide-moi à sortir. Et ça, c'est une simra, ça, parce que tu te dis, j'ai un Dieu qui va m'aider à sortir. C'est une simra extraordinaire. Et c'est pour ça, il dit, si? Mais genre, ça marche. Ça peut marcher, ça va marcher. Shehen ma'asim tovim kede le'ashiv chelek Hashem l'ukorav et shorcha kolamin, comme on a expliqué que ça c'est les bonnes actions qu'on fait pour permettre à la neshama de retourner chez Akadosh Baruch Hu. Vezotiyeh, pour conclure, vezotiyeh avodato kol yamav besimcha araba. Quand un juif y réfléchit comme ça, il va être joyeux. Un bal teshuvah doit être joyeux. Des fois on voit des gens qui font teshuvah et qui sont tristes. Il dit oui, mais moi tu sais d'où je viens, tu sais les bêtises que j'ai fait. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Le Baal Teshuvah, il doit dire regarde d'où je viens et regarde comment j'avance. Et là, t'es Bessimra. La Simra d'un Baal Teshuvah est beaucoup plus grande que la Simra d'un Tzadik. Parce que pour un Tzadik, ça marche. Donc il n'a pas la joie que ça marchait pas et maintenant ça marche. Mais le Baal Teshuvah, ça marchait pas avant. Quand ça marche, il a une grande Simra. La Simra qu'on a tous eu à Kippour, quand on sent que Dieu nous a pardonné. elle est beaucoup plus forte que la simra qu'un tzaddik a eu à Kippour. Parce que pour le tzaddik, toute l'année, ça a marché. Mais moi, toute l'année, j'ai fait des bêtises. Par-ci, par-là. Et quand j'ai fait teshuva, quand je me suis remis, j'ai une simra très profonde. Pourquoi? Parce que je sens que ma neshama est en train de revenir. Donc je suis content de ça. Plus je suis tombé bas, et plus je suis content de pouvoir revenir vers un Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est ce que veut dire ici l'Admor HaZaken. Il dit, il est très important que la teshuva, même s'il y a des micro-phases de la teshuva dans lesquelles j'ai une sorte de tristesse, mais il faut tout de suite bifurquer sur la joie. Il faut être besimra quand on fait teshuva. Il faut être content de pouvoir revenir. Il faut être besimra. Que même si j'ai fait un écart, je suis besimra que j'ai trouvé la route de retour et que je suis sur la route du retour. Qu'il y a des gens qui sont perdus, qui sont restés perdus. Ah, je suis pas encore revenu à la route principale. C'est pas grave. Je dois être besimra que je vais vers la route du retour et je vais arriver à la route du retour. Il faut être besimra de ça.
Est-ce que je peux fauter pour connaître cette voie?
Hasvé shalom. Hasvé shalom. Ça, non, ça, ça on peut pas dire. D'accord? Mais il y a une joie extraordinaire. Il y a une joie qu'on peut avoir que si on a fauté.
Alors qu'il soit bon, alors.
Mais on n'a pas le droit de fauter pour ça.
Il y a malheur, il n'y a pas.
Mais si tu veux connaître la joie,
on va essayer de se racheter sur.
Il ne connaîtra jamais, c'est vrai.
Non, mais pourquoi? C'est pas juste. Il n'y a pas besoin de fauter, il n'y a qu'à juste reculer, d'analyser ce qu'on a fait.
Et décider d'avancer. Mais le bilan doit pas être. C'est pas que je pense à ce que j'ai fait.
Non, si chacun il peut regarder derrière et dire j'ai fait aucune faute,
c'est pas que ça veut dire comme ça. Imagine quelqu'un qui fait un bilan. Il fait un bilan et il voit que ça marche pas, hein. Le but du, et qu'il voit que ça peut avancer, d'accord? Il doit pas, maintenant, quand il va décider de reprendre l'affaire en main, il faut pas qu'il soit déprimé. Il faut pas qu'il soit triste. Il faut que ce soit joyeux. Ah, l'affaire ne marche pas maintenant. Mais comme j'ai dans ma tête un plan pour la refaire marcher, même si maintenant, à l'instant donné, elle ne marche pas encore, mais comme je sais que j'ai un plan de restructuration pour la faire marcher, donc je suis joyeux. Parce que j'ai trouvé la solution. Ça va marcher. J'ai trouvé le chemin dessus pour que ça marche. C'est pour ça qu'un juif qui fait des choix doit être besimra. Même s'il revient de très très loin, et même s'il démarre à peine cette teshuva, parce que quand on est en teshuva, toute la vie on est en teshuva. C'est-à-dire, la teshuva c'est la démarche d'une vie entière. Mais il faut savoir qu'on doit être content qu'on fait teshuva. On doit être content qu'on est sur la route du retour. La route du retour, elle dure une vie, elle peut durer plusieurs vies. C'est pas un problème.
Alors, il y a un truc que je comprends pas.
Pourquoi me dis ?
Tu dis que la teshuva, c'est une démarche d'une vie entière, et pourtant on dit que, en un instant, on peut faire teshuva.
Oui. La teshuva d'un instant, c'est la teshuva de décider de ne plus fauter. Maintenant, il faut revenir.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que on dit qu'en un instant,
oui, j'ai compris.
On peut décider de faire
teshuva. On appelait pas la teshuva.
On peut décider de faire teshuva et à Kadosh Baruch Hu, il nous raille.
En un instant. Un instant. Une fraction de seconde. Tu as raison.
Ah, une fraction de seconde et une vie, c'est pas la
même. Imagine une personne qui s'est égarée. Et à un moment, volontairement. Et qu'à un moment, il dit, j'arrête de m'égarer maintenant. Dorénavant, j'arrête d'aller vers là.
Ça, c'est l'instant.
À ce moment-là, il vient de faire teshuva. À ce moment-là, il vient de revenir. Maintenant, il n'est pas encore revenu. Il est encore loin. Mais à ce moment-là, on l'appelle déjà Baal Teshuva, parce qu'il a pris le chemin du retour. Du moins, il a décidé de ne plus reculer. Donc, il est déjà sur le chemin du retour. Ne plus reculer, c'est déjà un chemin de retour. Mais après, il faut revenir. Ça prend longtemps de revenir.
Attends, mais quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat, il ne mange pas cachère.
Oui.
Il mange à 100% cachère, il fait Shabbat 100%. C'est lui, il n'a plus rien à faire.
Quoi, il n'a plus rien à faire.
Non,
il veut le sadique, c'est fini.
Non, mais c'est qu'il faut maintenir toute la vie.
Oui, il faut maintenir, mais c'est plus de choix. C'est plus de choix, parce que c'est la routine.
On ne fait jamais assez. Ça n'existe pas faire assez.
Oui, non, d'accord, je suis d'accord.
Parce que plus tu avances dans la Torah, et plus tu découvres que tu ne fais pas assez.
Bien sûr.
Plus tu découvres qu'on était à des niveaux extraordinaires, etc. Par exemple, est-ce que ce bonhomme, il étudie la Torah chaque seconde de libre qu'il a?
Alors.
Non, il n'est jamais libre.
On est loin, non, je peux dire ça. Oh bien, monsieur, bien sûr.
Alors, ve'en lecha simcha gdola. Ve'en lecha simcha gdola. Tu n'as pas de joie aussi grande que simcha, que la joie qui tset me agalut ve'ashivia. Comme une personne qui sort de l'emprisonnement dans lequel il était, comme on a expliqué tout à l'heure. Que machal ben meler she'aya be'ashivia. Comme l'exemple d'un prince qui était en captivité. Vetochen bebet asurim. Et que, en prison, on l'a pas mis dans la prison des diplomates. On l'a mis dans la prison où il est en train de moudre. À l'époque, c'était, excusez, comment, à l'époque, comment on moulait? Enfin, on moulait, oui, comment on moulait? D'accord? Alors, au lieu de prendre un animal, on prenait des soldats. Des soldats ou des prisonniers. Et ils marchaient, et ils tiraient comme un animal.
Voilà.
Imaginez le prince, guetté comme il était chez le roi. On l'amène en prison. Et en prison, qu'est-ce qu'on lui donne comme tâche? On lui donne les tâches les plus méprisantes possibles.
Dégradante.
Dégradante. D'accord. Et en plus, il tombe, il se salit, il est sale, etc. Maintenant, il faut ramener ce fils chez le roi. T'imagines la démarche pour ramener ce fils chez le roi? Tu prends un fils qui était sale comme ça, il était sale, il était par terre, il était en train de traîner, de tirer une meule, tu l'amènes. Tu le ramènes chez son roi. C'est extraordinaire. C'est exactement la même chose qu'on fait avec notre neshama. Quand je fais une avera, c'est comme si je prends ma neshama, parce que partout où on va, ma neshama me suit. Je fais une bêtise, la neshama elle vient avec moi. C'est comme ça. Même si je fais la bêtise, ben la neshama elle vient avec moi. Le gars il va rentrer dans une boîte de nuit, il va faire des bêtises, et ben la neshama elle rentre avec lui.
Oui, elle est dans mon corps.
Elle est là, elle est dans mon corps, elle est avec moi. Donc imagine-toi que quand je fais une bêtise avec l'énergie de ma neshama, c'est comme si je prends le fils du roi, je le mets en prison, et je lui donne les tâches les plus dégradantes possibles. C'est la même chose. Quand je fais teshuva, je libère le fils du roi. Donc finalement, plus je suis tombé bas, et plus je dois être content que je sois revenu dans la Kadosh Baruch Hu. Av she'aguf omed. Vishikou, David, tu suis où? On est où là? Alors, j'accélère un peu aujourd'hui.
L'avant-dernière.
75,
l'avant-dernière.
Av she'aguf omed vishikou tsovet yiruvo. Bien que le corps reste toujours aussi sale, il reste toujours aussi sale, comme on a expliqué. Donc, kimahut avat smuta shel hanefesh ha'bimdei parletov. D'accord, bon, ça, je vais m'arrêter ici. Ça, j'ai pas une bonne clé, ça. D'accord. Là, il va expliquer autre chose. D'accord. Là, c'est une grande question. C'est une grande question.
Pourquoi il compare une peau de serpent?
C'est une bonne question. Alors, on dit que le corps est appelé la peau du serpent. Le serpent, dans la Kabbalah, ça représente le mal absolu.
Mal.
Parce que le serpent, c'est lui qui a fait fauter l'homme.
Ah oui.
Donc, le corps est comparé à la peau du serpent. Alors, tu dis, finalement, qu'est-ce que je vais faire? Imagine-toi que j'ai fait des bêtises et je fais teshuva. Bon, très bien. Je fais teshuva, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir vers Hachem, mais mon corps, il reste toujours aussi sale. C'est toujours la peau du serpent, mon corps. Alors, qu'est-ce que je vais gagner? Je fais comme si je reviens, mais je ne suis pas revenu, mon corps est toujours aussi sale. Tu dis, c'est pas grave, faut être bestimra parce que tu reviens quand même. Cependant, ça c'est la semaine prochaine, on va expliquer. On va expliquer que ça c'est ce qu'on appelle Yetiat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, on était toujours aussi idolâtre, et pourtant on est sorti d'Égypte. Ça veut dire que le fait même de décider de vouloir sortir, c'est déjà le moment le plus important. Bon, mais ça, j'ai pas eu de bâclée, on a eu beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc pour conclure aujourd'hui, ce qu'on a compris, c'est que même si temporairement, momentanément, la teshuva peut être, pendant quelques instants, pendant quelques heures, quelques jours, une démarche qui est triste, mais au bout du compte, la teshuva doit être une démarche joyeuse. Moi, j'ai connu comme ça des balles de teshuva qui sont tristes. Tu dis, pourquoi t'es triste? Je dis, parce que je viens de loin. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Clairement, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut être besimcha de pouvoir revenir. Il faut être content de pouvoir revenir. Je vous avais raconté, avant Rosh Hashanah, vous rappelez certainement, l'histoire avec le... Je terminerai avec ça. L'histoire avec le Baal Shem Tov. Vous vous rappelez l'histoire avec le Baal Shem Tov? Qui arrive dans une ville. T'es de passage dans une ville. Vous vous rappelez l'histoire? Enfin, je le rappelle rapidement. Le Baal Shem Tov était de passage dans une ville. Et...
C'est Kippour.
Les choses ont fait qu'il devait passer là-bas à la fête de Rosh Hashanah Kippour.
Ah ouais.
Belle anecdote, d'accord? Et qui passe tous les chazanim, etc. Et à la fin, quel chazanim il a pris? Celui qui chantait Hacham nous. Nous avons fauté. Pourquoi? Parce que ce chazanim l'a expliqué au Baal Shem Tov. Il a donné tout un exemple avec un serviteur qui aimait beaucoup le roi, etc. Et que ce serviteur, une fois, il se balade dans le domaine du roi. Et il découvre qu'au fond du palais, au fond du domaine, il y a là-bas un endroit qu'on n'est jamais parti là-bas, c'est devenu une décharge. Les gens, ils jettent là-bas leur poubelle. Alors le serviteur, il pleure, parce qu'il voit que ça lui fait de la peine que le domaine du roi ait été dégradé comme ça. Mais d'un autre côté, il est content, parce qu'il peut le nettoyer. Donc il pleure parce qu'il nettoie la saleté, mais il est content parce qu'il peut la nettoyer. C'est la même chose. Quand je fais teshuva, comme je sais qu'il y a encore de la vie, il y a encore de l'espoir, je peux encore revenir, donc il faut être content de pouvoir revenir. C'est une chance qu'on a de pouvoir revenir. Imaginez, tu prends un vase, tu le casses, il est irrécupérable, c'est terminé. Nous on fait des bêtises, on peut retourner. C'est compliqué, mais on peut retourner. Il faut être bestimra de ça, qu'on te dit, tu peux revenir. Ce que tu as cassé, tu peux le réparer. Je suis content de ça que je peux le réparer. Imaginez que j'ai cassé quelque chose, je suis content de pouvoir le réparer. Si je ne peux pas le réparer, je suis dégoûté. Quand je peux le réparer, je suis bestimra. Il faut être bestimra. La teshuva doit être une démarche qui est bestimra.
Moi je connais des balais de cheval qui sont aussi pas bestimra.
Ah, j'en connais beaucoup, comme ça, ouais.
Mais pas parce qu'ils pensent au passé. Parce que Dieu ne laisse pas faire tout.
Pourquoi il laisse pas faire tes choix?
Ça veut dire qu'ils ont décidé de quitter une habitude qu'ils avaient, et cette habitude les assaille tous les jours.
Mais évidemment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Ça. Ils s'appellent quand même Baal Teshuva.
Oui, c'est pour ça qu'ils sont tristes. C'est pas parce que
C'est pas parce qu'ils ont un lourd passé qu'ils sont tristes. Ils sont tristes qu'ils n'arrivent pas, à lâcher.
D'après l'Admor HaZaken, c'est pas, faut pas tenir compte de ça. Il faut se dire qu'il faut être Bessimra, que je suis dans le chemin de retour, je veux revenir et je vais revenir. Tant que je veux revenir, c'est bon.
Ça peut durer très longtemps.
C'est dur longtemps. C'est normal, je dis toujours que la teshuva, c'est une démarche d'une vie. Pas comme ça faire teshuva en un instant. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci.